Chapitre 19. Conversation philosophique et intéressante sur les devoirs de la royauté chez les Marathes. Oraison funèbre d'Holkar. Quinze jours après le départ des Anglais, Corcoran était rentré dans sa capitale. Il jouissait paisiblement avec la belle Sitta des fruits de sa prudence et de son courage. Toute l'armée d'Holkar s'était empressée de le reconnaître comme le souverain légitime, et les Émindars, gouverneurs de district, obéissaient sans répugnance apparente au gendre et au successeur du dernier des Ragouides. Or ça, dit-il un matin au Brahmine Sugriva, dont il avait fait son premier ministre, ce n'est pas tout de régner. Il faut encore que mon règne serve à quelque chose. Car enfin, les rois n'ont pas été mis sur terre uniquement pour déjeuner, dîner, souper et prendre du bon temps. Qu'en dis-tu, Sugriva?
Seigneur, répondit Sugriva, ce n'était pas d'abord le dessein de Brahma et de Vishnu lorsqu'ils créèrent les rois.
Mais d'abord, crois-tu que la royauté vienne en droite ligne de ces deux puissantes divinités?
Seigneur, répliqua le Brahmine, rien n'est plus probable.
Brahma, qui a créé tous les êtres, les lions, les chacals, les crapauds, les singes, les crocodiles, les moustiques, les vipères, les boas constricteurs, les chamois de bosse, la peste noire et le choléra morbus, n'a pas dû oublier les rois sur la liste. Il me semble, Sugriva, que tu n'es pas trop respectueux pour cette noble et glorieuse partie de l'espèce humaine.
Seigneur, répliqua le Brahmine, qui éleva ses mains en forme de coupe, ne m'avez-vous pas fait promettre de dire la vérité?
C'est juste.
Si vous préférez que je mente, rien n'est plus aisé.
Non, non, il n'est pas nécessaire. Mais tu m'accorderas bien au moins que tous les rois ne sont pas aussi désagréables et aussi nuisibles que la peste et le choléra. Holkar, par exemple.
Ici, Sugriva se mit à rire en silence à la manière des hindous et montra deux rangées de dents blanches.
Voyons, continua Corcoran, que peux-tu reprocher à celui-là? N'était-il pas de noble race?
Sita m'assure qu'il est le propre descendant de Rama, fils de Dasaratha, et le plus intrépide des hommes.
Assurément. N'était-il pas brave?
Oui, comme le premier soldat venu.
N'était-il pas généreux?
Oui, avec ceux qui le flattaient.
Mais la moitié de son peuple aurait crevé de faim devant la porte du palais sans qu'il fît autre chose pour ces pauvres diables que de leur dire « Dieu vous assiste ».
Au moins tu m'avoueras qu'il était juste.
Oui, quand il n'avait aucun intérêt à prendre le bien d'autrui. Moi qui vous parle, je l'ai vu couper les têtes après dîner pour son plaisir et pour sa digestion.
C'était sans doute des têtes de coquins qui l'avaient bien mérité.
Probablement, à moins que ce ne fussent d'honnêtes gens dont le visage lui déplaisait. Et, tenez, voulez-vous connaître à fond le vieil Holkar? Quel trésor vous a-t-il laissé en mourant?
80 millions de roupies, outre les diamants et les pierreries.
Eh bien, de bonne foi, croyez-vous qu'un roi qui se respecte doive être si riche?
Peut-être était-il économe, dit Corcoran.
Économe? Vous le connaissez bien? Reprit amèrement Sugriva. Il a pendant 40 ans dépensé des milliards de roupies pour satisfaire les plus sottes fantaisies qui puissent venir à l'esprit d'un sectateur de Brahma. Il bâtissait des palais par douzaines, palais d'été, palais d'hiver, palais de toute saison. Il détournait des rivières pour avoir des jets d'eau dans son parc. Il achetait les plus beaux diamants de l'Inde pour en orner la poignée de son sabre. Et il avait des sabres par centaines. Il faisait venir des esclaves des 5 parties du monde. Il nourrissait des milliers de bouffons et de parasites et il faisait empaler quiconque avait essayé de lui dire la vérité.
Mais enfin, où prenait-il l'argent?
Où il est, c'est-à-dire dans les poches des pauvres gens? Et de temps en temps, il faisait couper la tête à un zémindar pour s'emparer de sa succession. C'est même la seule chose populaire qu'il ait jamais faite, car le peuple qui hait les zémindars plus que la mort était vengé de sa servitude par leur supplice.
Comment? Dit Corcoran.
Cet Holkar que je prenais à cause de sa barbe blanche et de son air vénérable et doux pour un vertueux patriarche digne contemporain de Rama et de Dasaratha, c'était le scélérat que tu dis?
Bah, qui se fiait, grand Dieu?
À personne, répondit sentencieusement le Brahmine. Car il n'est pas un homme sur 100 qui ne soit prêt à commettre des crimes dès qu'il aura le pouvoir absolu. On n'y arrive pas dès le premier jour, ni même dès le deuxième.
ou le troisième. Mais on glisse sur la pente, insensiblement. Connaissez-vous l'histoire du fameux Aurangzeb?
Probablement, mais dit toujours.
Eh bien, c'était le quatrième fils du grand Mogol qui régnait à Delhi. Comme il était d'une piété, d'une vertu et d'une sagesse à toute épreuve, son père l'associa de son vivant à l'Empire, et le nomma d'avance son successeur. Dès qu'Aurangzeb en fut là, sa piété fondit comme le plomb dans le feu, sa vertu se rouilla comme le fer dans l'eau, et sa sagesse s'enfuit comme une gazelle poursuivie par des chasseurs. Son premier acte fut d'enfermer son père dans une prison, le deuxième de couper la tête à ses frères, le troisième d'empaler leurs amis et leurs partisans. Puis comme son père, quoique prisonnier, le gênait encore, il l'empoisonna. Et ne croyez pas que Brahma ou Vishnu l'aient jamais foudroyé, ou qu'ils aient même contrarié ses desseins. Brahma et Vishnu, qui l'attendaient sans doute ailleurs, l'ont comblé de richesses, de victoires, de prospérités de toute espèce. Il est mort à l'âge de 88 ans, honoré comme un dieu, et sans avoir eu même une seule fois la colique.
Parbleu, dit Corcoran, il faut avouer que si tous les princes de ton pays ressemblaient au pauvre Holkar et à l'illustre Aurangzeb, vous avez bien tort de les regretter et de combattre les Anglais qui vous en débarrassent.
Je ne suis pas de votre avis, répliqua Sugriva, car les Anglais mentent, trompent, trahissent, oppriment, pillent et tuent aussi bien que nos propres princes, et qu'il n'y a aucune chance de leur échapper. Supposez que le colonel Barclay succède à Holkar, il sera 10 fois plus insupportable, car d'abord il prendra notre argent comme le faisait le défunt, et de plus, nous n'avons aucun profit à l'assassiner. S'il était tué, on nous enverrait à Calcutta un second Barclay aussi féroce et aussi affamé que le premier. Holkar, au contraire, avait toujours peur d'être égorgé, et cette peur lui donnait quelquefois du bon sens et de la modération. Enfin, il savait qu'un brahmine de haute caste comme moi est d'une naissance égale à celle des rois, et il se gardait bien de nous insulter, tandis que l'anglais, brutal, que j'ai vu à Bénarès, nous donne des coups de fouet pour se faire place dans la foule, et entre tout beauté sans crainte de la souiller, dans la sainte pagode de Jaggernaut, où le héros Rama lui-même ne serait pas entré sans avoir subi les 7 pénitences et les 70 purifications.
Pendant ce discours, Corcoran réfléchissait profondément. « J'aurais mieux fait, pensa-t-il, d'épouser Sita et de chercher sans retard le fameux Guru Karamta que d'accepter ainsi sans réflexion l'héritage d'Holkar. Mais enfin, le vin est tiré, il faut le boire. Il faudrait que je fusse bien malheureux pour n'être pas plus honnête homme que mon prédécesseur ou que le glorieux Aurangzeb. D'ailleurs, j'ai cru deviner quand Barclay m'a quitté que cet anglais rancunier, qui m'en veut de l'avoir mis à la porte de Bhagavapur, voudra tôt ou tard prendre sa revanche et reviendra avec une armée. Il faut être beau joueur et l'attendre de pied ferme. Qui vivra verra. » Puis se tournant vers Sugriva, « Mon ami, dit-il, Louison et moi, nous ne sommes pas de ces gens car rien effraie. Et si, outre le royaume d'Holkar, on nous offrait la Chine, l'Indochine, la presqu'île de Malacca et tout l'Afghanistan à gouverner, nous n'en serions pas plus embarrassés. Je montrerai dès demain que le métier de roi n'est pas difficile. « Seigneur, s'écria Sugriva en réunissant ses mains en coupe au-dessus de sa tête. Seigneur Corcoran, héros à la grande science, au visage clair et brillant, aux yeux plus beaux que la fleur du lotus bleu, que Brahma vous donne le bonheur d'Aurangzeb et la sagesse des Dasaratides. »